La fin de la neuvième forme. La neuvième forme réussira donc, au moins jusqu'en 2025, à soutenir son agriculture, à protéger ses industries de pointe, à mettre au point de nouvelles technologies, à augmenter la productivité des services, à moderniser ses systèmes d'armes, à défendre ses zones commerciales, à garantir ses accès aux matières premières, à assurer son influence stratégique. Au cours de cette période, la Californie restera le cœur, et les États-Unis conserveront leur avance technologique par des commandes publiques massives adressées à leurs entreprises stratégiques, en particulier militaires, financées par un budget dont le déficit, de plus en plus abyssal, restera couvert par des emprunts internationaux. Washington entretiendra une bonne entente avec l'Europe et avec les 11, de sorte que ceux-ci continueront de souscrire à ses emprunts et de partager les coûts de sa défense. En particulier, les États-Unis ne feront rien pour demander une réévaluation massive des monnaies de ces pays, notamment de la monnaie chinoise, ce qui rendrait pourtant beaucoup plus facile le maintien des emplois sur le sol américain. Une partie des 11 et les Européens accepteront cette alliance qui leur permettra de maintenir leur croissance sans pour autant devoir consacrer des sommes excessives à leur propre défense. Les États-Unis continueront à assister les gouvernements alliés, à combattre l'influence politique et sociale de leurs ennemis, à faire la propagande de leur modèle de développement et à promouvoir la liberté individuelle, valeur suprême de l'ordre marchand. Ce programme, pour les 20 prochaines années, est déjà en place. Il a été parfaitement résumé par l'actuel président américain dans son adresse inaugurale de janvier 2005. Nous allons de l'avant avec une confiance absolue dans le triomphe de la liberté. L'histoire voit la justice fluer et refluer, mais elle possède une direction visible, définie par la liberté et par l'auteur de la liberté. Toute l'idéologie de l'ordre marchand et de sa neuvième forme est parfaitement résumée dans ces quelques lignes. Mais d'année en année, d'ici à 2030, comme les cœurs précédents, le neuvième devra affronter les difficultés globales dont il a été question plus haut et des défis propres au cœur, de plus en plus coûteux, qui entraîneront le déclin et la disparition de la neuvième forme. D'abord, le défi viendra des entreprises virtuelles. Si Internet est aujourd'hui, pour l'essentiel, une colonie américaine où l'on parle l'anglais et dont l'essentiel des richesses est drainé vers la mère patrie, ce septième continent conquérera un jour son autonomie. Il deviendra puissance en soi, entité autonome, faisant des profits hors du sol américain. De nouveaux pouvoirs de finance, d'information, de distraction, de formation y joueront contre le pouvoir politique et culturel américain. Ils feront naître une diversité nouvelle qui remettra en cause la domination économique, politique, idéologique et esthétique américaine sur la démocratie de marché. Il deviendra de plus en plus évident qu'on peut être démocrate et favorable à l'économie de marché sans pour autant parler anglais, ni croire en la suprématie naturelle et définitive de l'Empire américain. Ensuite, les entreprises réelles américaines se détacheront, elles aussi, de l'Amérique. De plus en plus concurrencées dans de nombreux secteurs par des entreprises et des centres de recherche installés ailleurs, les industries stratégiques américaines délocaliseront leur production et leur recherche. Comme celles d'autres cœurs avant elles, ces firmes comprendront que leurs intérêts commerciaux ne se confondent plus avec ceux de leur gouvernement, dont l'image de plus en plus dégradée nuira à la vente de leurs produits. Elles tenteront d'abord d'obtenir de la Maison-Blanche une attitude plus conforme à ce dont ont besoin leurs consommateurs mondiaux. Puis, déçues, elles prendront leur distance avec l'administration, investiront moins dans les universités et les hôpitaux américains et créeront peu d'emplois aux États-Unis. Certaines d'entre elles passeront même sous le contrôle de fonds d'investissement étrangers à la nationalité indiscernable. Ces fonds accumuleront leurs profits dans des paradis fiscaux, faisant perdre aux actionnaires américains l'essentiel du profit et à l'État américain l'essentiel de ses recettes fiscales. Le système financier, de plus en plus concentré autour d'institutions d'assurance et de fonds de couverture de risques très hasardeux, exigeant une rentabilité de plus en plus élevée, s'en trouvera menacé. Partout en Amérique, les frustrations marchandes des salariés seront de plus en plus mal ressenties. La classe moyenne, principal acteur de la démocratie de marché, retrouvera la précarité à laquelle elle croyait avoir échappé en se dissociant de la classe ouvrière. Les cadres déclassés, les ouvriers précaires, les employés malmenés, les familles à l'abandon, les propriétaires endettés, les consommateurs déçus, les usagers révoltés, les minorités frustrées, les croyants en colère, fustigeront l'insondabilité de leur solitude, l'énormité des injustices, la violence des inégalités, les désintégrations communautaires. La concentration des populations dans les villes y créera des besoins croissants en voirie, écoles, hôpitaux, tout service collectif de plus en plus difficile à financer par l'impôt et dont l'insuffisance provoquera des troubles parmi les minorités. Le désastre de Katrina en 2005 a d'ailleurs révélé l'inégalité structurelle des services publics américains et montré l'incapacité américaine à gérer ses propres problèmes d'infrastructure. Les salaires américains continueront de baisser en raison de la concurrence des travailleurs étrangers et de la délocalisation des entreprises. Les écarts de revenus des ouvriers avec les plus riches remettront en cause la légitimité du rêve américain. Les dépenses d'énergie, d'eau, de santé, d'éducation, de sécurité, de retraite, de protection de l'environnement occuperont une part croissante du revenu de chacun. Le financement des déficits intérieurs et extérieurs sera de plus en plus ardu. La monnaie américaine deviendra une devise plus politique qu'économique, qui freinera l'usage de cette devise par d'autres, en particulier en Amérique latine et au Moyen-Orient, usage pourtant essentiel à la puissance des États-Unis. La rentabilité du capital ne sera maintenue qu'artificiellement par l'augmentation continue de la valeur des actifs. Ailleurs, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, le modèle californien sera, vers 2025, remis en cause et la domination américaine rejetée. Le modèle de la démocratie de marché sera lui aussi contesté sur le terrain même de sa réussite. De petits États totalitaires réussiront parfaitement bien et la démocratie de marché ne sera plus synonyme exclusif de succès économique ou d'efficacité écologique. Vers 2025 ou 2030, l'Amérique ne sera donc plus capable de conserver sur son territoire l'essentiel des profits réalisés par ses entreprises. Les dépenses d'organisation, internes et externes, auront tant augmenté que le déficit structurel de sa balance des paiements deviendra insurmontable. L'Asie, qui assurera encore l'essentiel de son financement, aura alors besoin de ses ressources pour réduire les inégalités entre régions, lutter contre les troubles urbains, mettre en place son propre système d'assurance sociale et de retraite. Pékin décidera de ne plus financer à bas prix le déficit américain et même de rapatrier les capitaux investis dans des titres américains. D'autres banques centrales étrangères commenceront aussi à équilibrer leurs réserves en d'autres devises. Le Trésor américain devra proposer un rendement beaucoup plus élevé pour ses emprunts, alourdissant le coût pour les Américains des nouveaux contrats de vente à crédit, des prêts hypothécaires et des dettes indexées sur les taux variables, comme les cartes de crédit. Les ménages américains devront vendre leurs logements donnés en garantie de leur crédit. Le prix de l'immobilier aux États-Unis baissera massivement. La pyramide du crédit, dont l'assise est la valeur des logements des Américains, s'effondrera. Les ménages endettés deviendront insolvables. Les compagnies d'assurance exigeront le paiement des primes. L'État fédéral sera incapable de venir au secours des plus faibles, étant lui-même alors paralysé, à l'instar de tout le système financier américain. La production ralentira et le chômage atteindra des proportions jusque-là inconnues. La crise pourrait aussi venir plus directement de l'incapacité du système financier à conserver son épargne, qui ira se placer de façon de plus en plus spéculative dans des fonds gérés sur Internet à partir de paradis fiscaux. La rentabilité des capitaux ne pourra plus être maintenue par la hausse de valeur des actifs. La crise financière éclatera. Tout cela ressemble à ce qui arriva en d'autres temps à Venise, Gênes, Anvers, Amsterdam, Londres, Boston et New York. La Californie cessera alors, vers 2030, de rassembler l'essentiel de la classe créative et d'être le centre de la mise en œuvre et du financement des principales innovations industrielles. La neuvième forme aura vécu. Les États-Unis pourraient alors devenir soit une social-démocratie de type scandinave, soit une dictature, voire peut-être l'une après l'autre. Ce ne serait pas la première fois qu'une telle surprise aurait lieu. Le premier dirigeant à appliquer les principes permettant de sortir de la crise de la huitième forme fut Mussolini. Le second fut Hitler. Et Roosevelt ne fut que le troisième. Par une voie ou une autre, une dixième forme de l'ordre marchand mondial pourrait alors voir le jour. Une dixième forme marchande est-elle possible? Lors de chacune des neuf précédentes mutations de l'ordre marchand, des soubresauts, des embellis, des résistances ont donné le sentiment aux contemporains que la forme alors en place, si menacée fût-elle, ne pourrait pas disparaître et que le cœur du moment resterait à jamais la capitale du monde. Souvent même, le pouvoir avait depuis longtemps changé de main sans que quiconque dans le cœur en déclin ni alentour s'en fût vraiment rendu compte. Les anciens maîtres continuaient de croire qu'ils dominaient le monde de leurs produits et de leur culture, de leur diplomatie et de leurs armées, alors qu'ils étaient en fait entrés dans une irréversible décadence et que d'autres avaient déjà pris leur place. Ainsi de Bruges, de Venise, de Londres, de Boston ou de New York en leur temps. Ainsi demain, de la Californie. Pourtant, si l'histoire a un sens, dans 30 ans ou moins, quand cette neuvième forme de l'ordre marchand s'effacera, épuisée par les efforts qu'il lui aura fallu déployer pour lutter contre ses ennemis, elle laissera place à une autre forme, avec un autre cœur, d'autres technologies, d'autres rapports géopolitiques entre les continents. C'est là que toute l'histoire racontée en détail au chapitre précédent trouve sa justification, car elle permet de dessiner avec précision la figure de l'avenir. Si en effet cette dixième forme ressemble aux neuf précédentes, elle fera apparaître de nouveaux équilibres entre les nations. Elle étendra la liberté des mœurs. Des technologies nouvelles permettront de réduire encore le temps nécessaire pour fabriquer nourriture, vêtements, moyens de transport et de distraction. Des placements industriels redeviendront rentables. De nouveaux services seront transformés en produits industriels. De nouveaux travailleurs en salariés précaires. des énergies nouvelles remplaceront celles devenues rares. De plus en plus de richesses seront concentrées en un nombre de plus en plus restreint de privilégiés. S'ouvrira aux consommateurs et aux citoyens une plus grande variété de choix qui imposera aux travailleurs de nouvelles formes d'aliénation. Le cœur de cette dixième forme devra être, encore une fois, une vaste région autour d'un très grand port ou aéroport maîtrisant les réseaux de commerce du monde. Dans ce nouveau cœur, un climat relationnel particulièrement libéral et dynamique devra permettre à une classe créative de mettre en œuvre à son profit des idées, des techniques, des valeurs capables de résoudre les défis qu'affrontera alors l'ordre marchand, c'est-à-dire de réduire cette fois les coûts de santé, d'éducation et de sécurité, et de faire surgir les nouveaux objets de consommation nécessaires à la relance de la croissance mondiale. Le plus vraisemblable est que ce dixième cœur, s'il vient au jour, sera situé, pour une quatrième fois, quelque part sur le territoire des États-Unis d'Amérique. Parce que ce pays restera, même après la crise de 2025, la première puissance militaire, technologique, financière et culturelle du monde, et qu'il sera, sans concurrence imaginable, le plus vaste marché et le refuge le plus sûr pour les élites et pour les capitaux. Parce que Washington restera la capitale politique du monde, et que l'armée américaine sera encore de loin la première force militaire de la planète. Parce que, enfin, l'Amérique restaurera un jour ses finances, en trouvant les moyens, comme elle le fit avec l'automobile, puis avec les biens d'équipement ménagers, enfin avec les objets nomades, de relancer la croissance par la production industrielle qui reste à définir de nouveaux objets. Aussi, si une nouvelle ville américaine devait devenir le dixième cœur, ce serait sans doute encore une ville située du côté de la Californie. Celle-ci restera en effet, pour 50 ans encore au moins, l'État le plus dynamique au bord de l'océan le plus fréquenté de la planète. Aucun autre État américain ne sera plus en situation de rivaliser avec elle. L'État de New York sera trop affaibli industriellement. Le Texas, trop isolé, manquera par trop d'infrastructures. Le deuxième cœur californien, comme il y eut deux cœurs successifs sur la côte Est, Boston et New York, serait sans doute situé plus au sud, à la frontière mexicaine, au voisinage à la fois d'un autre grand pays, d'un des ports les plus dynamiques du Pacifique, San Diego, des industries de défense, de l'espace, des télécommunications, de la microélectronique, des centres les plus importants en biotechnologie et nanotechnologie, la JOLLA, et d'étudiants d'exception venus du monde entier étudier dans certaines des meilleures universités du monde, Stanford et Berkeley. Ce dixième cœur, produisant de nouveaux objets industriels, répondant aux besoins du futur, s'étendrait alors du nord du Mexique à l'ouest du Canada. Pourtant, à mon sens, il y a peu de chances qu'un tel schéma voie le jour. Dans 20 ou 30 ans, au moment où aura lieu la crise finale de la neuvième forme, les États-Unis seront fatigués. Fatigués du pouvoir, fatigués de l'ingratitude de ceux dont ils auront assuré la sécurité et qui se considéreront encore comme leurs victimes. Ils auront besoin de souffler, de s'occuper d'eux-mêmes, de restaurer leurs finances, de panser leurs blessures, d'améliorer le bien-être de leurs propres habitants, de se recroqueviller sur leurs préoccupations et surtout de se défendre sur leur propre sol. Ils ne voudront plus assumer ni militairement, ni financièrement, ni politiquement les charges inhérentes à la maîtrise du cœur. Ils ne voudront plus courir le risque de subir une guerre à domicile. Ils ne tenteront plus de gérer le monde devenu hors de portée de leurs finances, de leurs troupes, de leur diplomatie. Leurs armées deviendront essentiellement défensives. Dès à présent, d'ailleurs, les dirigeants de Washington ne justifient plus la présence de troupes américaines à l'extérieur que par les seules nécessités de la défense du territoire national et de la protection des citoyens américains. L'Amérique sera pourtant encore une très grande puissance. Par choix, et non par résignation ou par obligation, elle ne sera plus ni l'empire dominant, ni le cœur de l'ordre marchand. Il est évidemment difficile de se montrer plus précis sur la date de cette renonciation. Sinon que l'histoire nous apprend que la durée de vie des empires est de plus en plus brève. L'Empire romain d'Orient a duré 1058 ans. Le Saint-Empire romain germanique, 1006 ans. Les empires d'Orient, 400 ans chacun. Les empires chinois, moins de 3 siècles. Les empires perses, mongols et européens, au moins 2 à 3 siècles. L'Empire hollandais, 2 siècles et demi. L'Empire britannique, 1 siècle. L'Empire soviétique, 70 ans. Les tentatives japonaises, allemandes et italiennes, moins encore. Les États-Unis, qui sont l'empire dominant depuis quelque 120 ans, soit déjà plus longtemps que la moyenne des empires les plus récents, cesseront bientôt de dominer le monde. Cette perspective peut paraître inconcevable à beaucoup. Aujourd'hui, la plupart des dirigeants américains pensent encore que l'empire américain sera éternel. Pour eux, au demeurant, l'Amérique est une démocratie, pas un empire. Elle est investie d'une mission salvatrice à l'échelle de l'humanité. Ils se comportent comme si le temps, c'est-à-dire Dieu, ne pouvait que servir leurs intérêts. Comme si l'Amérique, invulnérable et sans reproche, allait encore être maîtresse du monde dans plusieurs siècles. Beaucoup de gens autour d'eux, dans le reste du monde, y compris parmi leurs pires adversaires, le croient aussi. Certains d'entre eux agissent même comme si leur propre suicide pouvait seul menacer l'éternité du pouvoir américain. Il n'empêche, dans 3 décennies, il faudra chercher ailleurs le nouveau cœur du monde. D'autres lieux seraient possibles. L'histoire nous a enseigné qu'il n'est pas nécessaire qu'un cœur soit situé sur le territoire de la nation la plus vaste ou la plus peuplée pour prétendre à ce statut. Ni Bruges, ni Venise, ni les villes qui leur ont succédé ne l'étaient. Pour y atteindre, il leur a fallu trouver en elles-mêmes l'énergie, la force créatrice, le désir d'innover, de produire en masse, de s'exposer au monde, de dominer. Selon ces critères, plusieurs villes pourraient, dans 20 ou 30 ans, faire figure de candidate. Londres, d'abord, en aurait les moyens. Première place financière du continent européen, pôle d'attraction des élites du monde, en même temps que proche des 2 plus grandes universités mondiales, elle réunira encore, dans 20 ou 30 ans, de nombreuses caractéristiques d'un cœur. Une population diverse, un port et un aéroport exceptionnels, une capacité créative hors norme. Mais cela ne suffira pas. Celle qui fut la ville-cœur du XIXe siècle n'aura plus l'arrière-pays industriel et l'infrastructure de transport et de services publics nécessaires à la production des futurs objets de consommation. La City ne sera plus qu'une formidable plateforme financière à la fois sophistiquée et fragile, qui pourrait être délaissée à la moindre incertitude technologique ou militaire et que fuiront, à la prochaine explosion de la bulle immobilière, beaucoup de ceux qui y vivent aujourd'hui. Le cœur pourrait être aussi constitué par la vaste conurbation installée en Europe tout au long de la ligne des trains à grande vitesse, de Londres à Francfort, en passant par Bruxelles, Lille et Paris. Il y aura là à la fois la puissance financière et industrielle nécessaire. Ce serait peut-être possible si l'intégration politique, industrielle et militaire de quelques pays de l'Union européenne, dont la France et l'Allemagne, était alors assez avancée pour qu'on ait édifié un pouvoir politique, industriel et militaire fort, sans lequel un cœur ne saurait tenir son rôle. Cette région pourrait alors remplacer la Californie. Et l'euro pourrait peut-être remplacer le dollar. Mais cela n'aura sans doute pas lieu, en tout cas pas avant de fortes secousses, qui se produiront beaucoup plus tard, et dont il sera question au chapitre suivant. Il y faudrait en effet cette volonté d'exister, de diriger, d'avancer ensemble, de rassembler les talents venus d'ailleurs, ce désir de prendre le pouvoir sur le monde, stimulé par la peur du manque, ce courage de risquer sa vie et son âme qui ont façonné par le passé tous les cœurs, mais qui ne semblent plus avoir de raison de se manifester sans de terribles menaces qui viendront plus tard dans cette partie de l'Europe. Un autre cœur pourrait émerger dans les pays scandinaves, entre Stockholm, Helsinki et Oslo. Là existent et existeront de plus en plus un climat relationnel exceptionnel, des industries de pointe, d'excellentes universités, des ressources pétrolières majeures, un haut niveau éducatif, une très grande sécurité, une exceptionnelle protection sociale, une haute qualité de vie, que viendra paradoxalement améliorer le réchauffement climatique, même s'il menace les côtes. Ces villes pourraient même attirer une vaste classe créative venue du reste du monde. Mais à mon sens, les pays nordiques, soucieux de se garder des dangers du monde, refuseront de se mêler des affaires des autres, sauf, comme diplomates discrets, n'ayant pas envie d'attirer l'attention des ennemis de la liberté. Ils refuseront donc de jouer ce rôle de cœur, car celui-ci n'est jamais neutre. Aucune autre ville, aucun autre pays en Europe ne sera prêt à assurer les dépenses de protection et d'expansion d'un cœur. Celui-ci n'est donc pas prêt de retraverser l'Atlantique. Tokyo sera un autre candidat sérieux. Son industrie disposera encore, autour de 2030, d'une certaine avance sur celle des autres pays du pourtour asiatique du Pacifique et jouera un rôle majeur dans la conception des futurs objets. Mais la capitale du Japon n'a pas su saisir sa chance dans les années 1980. Et elle ne sera pas non plus en 2030 capable de créer des valeurs universelles. La liberté individuelle n'est pas son idéal philosophique. Elle ne saura pas non plus attirer assez de talents étrangers. Par ailleurs, faute d'une réconciliation avec la Chine et la Corée, le Japon ne sera toujours pas en situation d'assumer le rôle de protecteur politique de la périphérie et de l'Interland, encore moins d'assumer le rôle militaire planétaire qui doit incomber au cœur. Deux autres villes d'Asie, Shanghai et Bombay, seront vers 2030 les deux premières villes des deux plus grandes économies du monde. Elles pourraient donc, elles aussi, prétendre à devenir un jour ce cœur de l'ordre marchand. Elles seront de fait l'une et l'autre des ports majeurs, recevant les produits d'un immense arrière-pays et lui apportant ce qui vient du reste du monde. Mais il leur faudrait, pour avoir une chance de devenir ce cœur, être capable de mettre en place des réseaux de communication, des infrastructures urbaines, législatives, policières, militaires, technologiques, être capable de stabiliser leur environnement politique et de trouver l'emploi nécessaire pour occuper une population rurale en surnombre. À mon sens, ces deux villes n'y parviendront pas, en tout cas pas dans les trois prochaines décennies. Trop occupées à régler leurs problèmes intérieurs, menacées de devoir affronter les rébellions d'autres provinces moins privilégiées, manquant des infrastructures les plus élémentaires, elles ne seront pas prêtes à temps pour prendre le relais de la neuvième forme. L'Australie sera sans doute aussi, un jour très lointain, en situation de devenir un cœur. Nouvelle-Amérique, douée de la même dynamique, de la même capacité d'accueillir des immigrants, de la même volonté de développer des technologies d'avenir, dotée même, dès aujourd'hui, d'un des tout premiers ports du monde, mais elle est encore trop peu peuplée, trop à l'écart du reste du monde. Il y faudrait d'énormes progrès dans le transport de marchandises qui mettraient Sydney à moins de 4 heures d'avion de Los Angeles ou de Tokyo et à 5 jours de bateau, et une population d'au moins 100 millions d'habitants. Cela semble hors de portée pour longtemps. La Russie et le Canada, au climat amélioré par le réchauffement climatique, ne seront pas pour autant des candidats crédibles. L'islam rêvera aussi d'accueillir le cœur, que ce soit au Caire, à Ankara, à Bagdad ou à Jakarta. Mais il sera loin, en 2035, d'en avoir les moyens industriels, financiers, culturels et politiques. Il y faudrait une liberté intellectuelle, aujourd'hui impensable. Il serait cependant assez élégant d'imaginer que la migration des cœurs se continue vers l'Ouest, poursuivant le voyage entrepris il y a 3000 ans, et passe successivement au Japon, en Chine, en Australie, en Inde, pour aboutir finalement, un jour, au Moyen-Orient, où l'ordre marchand fut conçu. On pourrait même imaginer que le cœur s'arrête à Jérusalem, devenue capitale de tous les États de la région, enfin en paix les uns avec les autres. Ville-monde, même, pourquoi pas, capitale planétaire de l'ensemble des démocraties de marché ou capitale d'une démocratie de marché planétaire. En attendant la réalisation de cette très lointaine utopie, dont il sera question plus loin dans la troisième vague de l'avenir, aucun cœur ne prendra le relais de Los Angeles. Pendant un très long laps de temps, jusqu'à ce que se lèvent les trois vagues suivantes de l'avenir, un cœur ne sera plus nécessaire au fonctionnement de l'ordre. Le marché sera devenu assez puissant et le coût de l'échange de données assez faible pour que les membres de la classe créative n'aient plus besoin de vivre au même endroit pour diriger le monde. L'industrie nouvelle s'installera en 1000 sites à la fois. La forme marchande fonctionnera sans cœur. Le capitalisme n'en sera que plus vivant, plus dynamique, plus prometteur, plus dominateur. Ceux qui auront annoncé ces funérailles en seront, encore une fois, pour leurs frais.